Voilà, nous commençons, Caroline Brouet, la dernière partie de la grande table, tant que notre invité s'installe.
Voilà, avec donc Tiphaine Samoyo qui est en train d'enlever son manteau, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Et bienvenue, vous êtes romancière, vous êtes essayiste, vous êtes universitaire, professeur de littérature comparée à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et vous venez de faire paraître Roland Barthes dans la collection Biographie chez Fiction et Compagnie du Seuil, un livre qui est le premier temps d'une année Barthes à l'occasion du centenaire de sa naissance. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger autour de la table, nous avons proposé à Marielle Massé de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Marielle Massé, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous enseignez la littérature du XXe siècle, dont vous êtes une spécialiste. Vous avez d'ailleurs, il y a une dizaine, un peu plus d'années, dirigé un ouvrage autour de Roland Barthes, si je ne m'abuse. Vous, Tiphaine Samoyo, vous êtes, je le disais, romancière, vous êtes essayiste, vous êtes universitaire. On sait que Roland Barthes lui-même était écrivain, il voulait être romancier, mais il n'a pas écrit de roman, mais qu'il était écrivain, bien sûr, essayiste et universitaire. Est-ce que c'est ce qui vous rapproche, au fond, ou est-ce que vos affinités électives vont encore plus loin ?
En tout cas, ce point-là nous rapproche incontestablement. Enfin, c'est comme quelqu'un qui a brouillé la distinction entre intellectuel et écrivain. D'autres l'ont aidé à le faire à la même époque. Hein. C'est une période où on bouscule un tout petit peu les hiérarchies et les frontières établies. Mais Barthes l'a peut-être fait plus que d'autres en valorisant de manière continue la nuance, l'indirect, la valeur de l'écriture pour la pensée.
Le brouillage dont vous parlez entre l'écrivain et l'intellectuel, d'une certaine façon, on le retrouve dans cette biographie que vous signez, qui est une biographie très peu psychologique. Alors, il faut dire quand même que Roland Barthes, dans sa théorie littéraire, accordait peu de place à la psychologie. Il accordait énormément de place au texte. Le degré zéro de l'écriture en est une preuve, mais il y a bien d'autres textes de lui qui le montrent. Et donc, vous avez signé une biographie qu'on présente comme plutôt intellectuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme-là ?
Oui, alors effectivement, Barthes n'accordait pas d'importance, en tout cas il n'aimait pas beaucoup la psychologie. En revanche, il accordait une très grande importance, une valeur à l'intime. Toute la difficulté, c'est d'arriver à faire passer l'intimité d'un être, l'intimité aussi de son rapport au monde, aux choses, aux êtres, sans passer par le détour de la psychologie. Mais ça, c'est aussi une leçon qu'on apprend chez lui et qui, je pense, est utile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on croit que la psychologie, c'est l'intimité, mais en fait, non, la psychologie, c'est le devenir public du privé ou de l'intime. L'intimité, c'est tout à fait autre chose. C'est rentrer, pareil, dans quelque chose de plus nuancé.
Roland Barthes est mort en 1980 dans un accident de voiture. Ça fait donc 35 ans maintenant. Et finalement, malgré sa notoriété, malgré le fait qu'il enthousiasme encore ceux qui ont en particulier assisté à ses cours au Collège de France, ceux qui ont lu ses textes, il a eu assez peu de biographies sur Roland Barthes. Une en 1990, Louis-Jean Calvé, une autre en 2012, Marie-Gilles, la sienne d'ailleurs, avant sa mort en 1975, Roland Barthes par Roland Barthes. Est-ce que vous vous êtes servi, vous, de ces précédentes biographies, peu nombreuses, et je ne sais pas s'il y en a eu d'ailleurs à l'étranger?
Si, il y en a eu à l'étranger, en particulier en Angleterre, de Andy Stafford, qui est aussi une biographie intellectuelle. En réalité, moi je trouve que 3 biographies en 35 ans, c'est plutôt
beaucoup.
Et par ailleurs, de façon très étrange, parce que comme je le dis en commençant, a priori, Barthes n'a pas une vie particulièrement passionnante, enfin une vie dont on pourrait dire qu'elle est une sorte de cadeau pour les biographes. Et il a fait aussi l'objet de beaucoup d'essais romanesques, de biographies romancées, et aussi d'une abondance de travaux critiques absolument exceptionnels, et dans le monde entier. Et je dirais qu'il y a le Barthes en France, avec tous ces textes qu'on vient d'évoquer, mais aussi un Barthes dans différents pays du monde, dans différentes langues du monde, à des époques d'ailleurs très différentes. Il y a eu un Barthes contemporain du Barthes français en Italie, mais aussi actuellement, par exemple, un Barthes qui commence à être lu dans des pays comme l'Iran ou l'Inde, qui font aujourd'hui leur tournant théorique que la France a connu dans les années 60-70 et qui trouvent en Barthes des ressources.
C'est quoi le tournant théorique dont vous parlez ?
Par exemple, en Iran, récemment, a été publiée La Leçon, hein, qui a eu un assez fort retentissement, et en Inde aussi, dans les universités, hein, l'idée qu'on doit transformer à la fois les manières d'enseigner, de présenter la pensée. Je crois que c'est surtout ça, La Leçon, de ce qu'on appelle le tournant théorique des années 60, c'est que tout d'un coup, on ne se contente plus des anciennes manières de présenter le savoir, soit dans l'écriture ou dans l'enseignement.
Je vais donner tout de suite la parole à Marielle Massé, mais d'abord une dernière question, Tiphaine Samoyou, puisqu'on fête cette année donc, le centenaire de sa naissance, ce qui fait qu'il n'est pas jeune quand même, Roland Barthes, et pourtant vous en faites un contemporain. À la différence d'ailleurs d'Antoine Compagnon, qui en avait fait un anti-moderne. Alors, dans votre bouche, ou plutôt sous votre plume, en faire un contemporain, ça voudrait dire quoi ? Qu'est-ce qui fonctionne encore au présent chez Roland Barthes en 2015 ?
Effectivement, ma grande question, c'était de savoir ce que sa pensée, son écriture, pouvait encore être repris et tiré jusqu'à nous aujourd'hui. Ça m'intéressait pas de l'inscrire ou d'inscrire justement le moment historique dans lequel il a vécu, dans un passé muséifié. On l'entend beaucoup, hein, le regret de ces années-là où la pensée française était si florissante, si puissante aussi dans le monde entier. Moi, il me semble qu'on porte un héritage et qu'il s'agit de le mesurer. Et pour moi, ce qui est le plus important peut-être, c'est la critique que Barthes exerce contre toutes les arrogances, contre tous les discours tout faits, contre tous les discours d'autorité. Et d'y opposer toujours une critique de la nuance, mais qui soit aussi une critique du commun. Si je prends l'exemple des mythologies qui sont un texte si célèbre, souvent les mythologies, si on les regarde, on voit qu'ils traitent d'objets qui sont complètement vintage, complètement démodés d'une certaine manière. Mais ce qu'il nous apprend par cette critique, et c'est pour ça qu'elle est encore puissante aujourd'hui, qu'elle parvient encore à nous faire rire et à nous enseigner quelque chose, c'est que ce sont des images qui aussi fondent de la communauté, du commun. Et donc ce qui nous apprend à voir, et je pense qu'on a la tâche d'essayer de le voir encore aujourd'hui, c'est quels sont ces signes autour de nous qui peuvent nous permettre de fonder ou refonder du commun.
Marielle Massé, vous avez lu cette biographie de Tiphaine Samoyou sur Roland Barthes ?
Oui, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion, parce que si vous disiez tout à l'heure que c'est une biographie intellectuelle, et je pense que Tiphaine Samoyou ne renierait pas cette idée-là, ça ne serait une critique que si l'on pensait qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas d'émotion et qu'il n'y a pas de sensibilité dans la pensée. Et justement, l'engagement de Barthes dans la parole, si c'est de ça qu'on hérite, le fait de faire attention à ce qu'on dit, à tout ce qu'on dit et à tout ce qui peut être entendu dans ce qu'on dit, cet engagement dans la parole, c'est le vif de la vie et du corps de Barthes. Et je trouve que cette biographie nous rend doucement sensible à ça. Et la chose qui m'a touchée aussi dans cette biographie, c'est l'attention sans doute très, très méditée et très pudique apportée à la forme que l'on peut donner à la vie de quelqu'un, et à la vie de Barthes en particulier. Alors c'est pas du tout spectaculaire, c'est pas un livre qui invente un dispositif, comme Barthes avait pu le faire lui-même en se mettant dans l'ordre alphabétique un petit peu incertain dans Roland Barthes par Roland Barthes. C'est un livre qui fait alterner les chapitres de vie et les chapitres de livre, hein, et qui fait courir la vie et qui fait courir justement l'affect à travers ces chapitres-là. Mais c'est aussi un livre qui se construit d'une façon très singulière, parce qu'il commence par la mort de Barthes et il la raconte deux fois. Alors si je peux m'attarder un petit peu sur ce fait-là, c'est très fort et c'est très bouleversant. Il y a un premier récit donc de la mort de Barthes, qui est un récit inaugural, très circonstancé, qui vise en quelque sorte la mort de Barthes à travers l'œil des autres, hein, le public, les témoins, les faux témoins, notamment le fait que... Alors, Barthes est mort des suites d'un accident, mais pas d'un accident, mais on a retenu qu'il était mort d'un accident, comme pour créer enfin une sorte d'événement comme ça, ponctuel, dans une vie qui n'a été faite que de... parfois de rendez-vous ratés, ou de dilution, ou de retrait. Donc il y a ce premier récit qui vise un peu Barthes dans l'œil public, et puis après, la biographie va commencer. Alors, elle commence pas tout de suite, parce qu'il y a un deuxième chapitre qui est consacré à la voix de Barthes. Comme si, justement, ce qu'on allait raconter, C'est pas encore tout à fait une vie au sens où on l'attendrait, où on l'entend, c'est une voix, l'histoire d'une voix, c'est-à-dire l'histoire d'une certaine façon de se tenir dans la parole et de se tenir dans le monde. Donc on entre comme ça dans une histoire qui a déjà été un petit peu reculée, où on nous dit attention au début. Et puis l'histoire non pas se déroule parce qu'elle n'est pas continue, mais s'organise jusqu'au moment, à la fin, dans les toutes dernières lignes de la biographie, où Tiphaine Samoyo re-raconte cette mort, et d'une façon tout autre, en quelques lignes, et comme si elle protestait tout à coup contre l'extinction de cette voix. Et elle ne dit pas seulement « il est mort », elle dit « plus jamais il n'écrira comme il écrivait, plus jamais il ne dira ce qu'il a dit ». Et c'est ça qui est très, qui est très bouleversant, en fait, quand on sort lecteur de ce récit-là, parce qu'on a envie de protester comme elle contre la fin de cette possibilité-là d'écriture et de parole.
Pas de psychologie, ça ne veut pas dire pas d'émotion, hein, on l'a bien entendu, Tiphaine Samoyo.
Non, mais je suis très touchée par votre lecture, Marielle Massé, parce que c'est exactement ce qui s'est produit aussi pour moi, effectivement, en écrivant. Commencer par la mort, c'est effectivement le chapitre que j'ai écrit en premier. C'était aussi me débarrasser d'une mythologie. C'est-à-dire que par rapport à Barthes, il y a un certain nombre de mythologies qui ont été construites à son propos, de la même manière que lui en a pointé dans le monde qui l'entourait, et en particulier cette mort. Et donc j'ai commencé par me sortir un peu de cette mythologie et de cette légende pour pouvoir entrer dans sa vie. Hein, c'est évidemment parce que quelqu'un est mort qu'on écrit sa vie.
Et la mythologie, c'est quoi? Le fait qu'il n'ait pas été, en fait, qu'il ne soit pas mort du fait d'avoir été écrasé?
Pas seulement. On a aussi beaucoup dit, je pense que ça c'est assez prégnant par rapport au personnage de Roland Barthes, qu'il s'était laissé mourir après la disparition de sa mère. Et que depuis...
Morte en 1977. Voilà. Année de son entrée au Collège de France, oui. Année de publication des fragments d'un discours amoureux, voilà. Qui est son plus grand succès.
Oui, donc année de très forte césure, à la fois celle de la plus grande reconnaissance publique par les fragments d'un discours amoureux, de la plus grande reconnaissance institutionnelle, comme vous venez de le rappeler, par l'entrée au Collège de France, et puis de la plus grande séparation, qui est celle avec sa mère. Et
donc, il était orphelin de père, pardon de vous interrompre, oui. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, il était orphelin de père depuis 1916, donc
oui,
après un an d'existence
après sa
pour
naissance.
Lui.
Ouais, voilà. Et donc cette grande césure qui l'a beaucoup marqué, dont il a finalement fait toute la matière de la fin de son œuvre, puisque son essai sur la photographie, La Chambre Claire, est aussi une sorte de tombeau pour sa mère, que tous les projets en cours portaient sur le rapport entre la mère, la vie, la littérature, le rapport entre l'amour maternel et l'amour de la littérature. Et donc la mythologie, pour moi, c'est plutôt celle-là. C'est, il s'est laissé mourir à l'hôpital parce qu'il ne supportait plus de vivre après la mort de sa mère. Et donc j'ai enregistré les discours, j'essaye de mettre comme ça en perspective l'ensemble de ces discours pour ensuite rentrer dans sa vie. Et je dirais qu'une autre raison pour laquelle je l'ai faite, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui ont écrit précédemment sur Roland Barthes, je ne l'ai pas connu. Hein, il y a encore beaucoup de témoins de son existence, beaucoup de personnes qu'on pourrait appeler ses contemporains exacts. Ça n'était pas mon cas. Il a toujours été mort quand je l'ai lu. Donc c'était une façon aussi d'aller le chercher là où moi j'avais commencé à le connaître. Mais alors par rapport à ce que vous disiez, Marielle Massé, quand en revanche, donc là je l'ai écrit comme ça, quand à la fin, après avoir passé tant de temps à écrire sa vie, lorsque là j'ai écrit sa mort à la fin du livre, là j'ai eu une émotion très forte et j'ai même pleuré en écrivant les dernières lignes, parce que je voyais disparaître quelqu'un qui m'avait accompagné. On ne peut pas écrire une biographie sans être dans ce compagnonnage très, très, très proche, hein, qui parfois s'accompagne aussi de distance, de recul critique, mais qui est quand même un compagnonnage.
C'est une mythologie, vous l'avez dit, et vous avez voulu vous débarrasser de la mythologie, une mythologie qui est aussi devenue un personnage de spectacle. Écoutez Fabrice Lucchini parlant de Roland Barthes.
Je veux rencontrer Roland Barthes, il faut que je connaisse Roland Barthes. Je me débrouille pour avoir son adresse, il habite rue Servandoni, une petite rue qui part de la place Saint-Sulpice et qui va au Luxembourg. Je me précipite dans cette petite rue, j'arrive devant l'immeuble, la concierge m'empêche de rentrer. Personne ne parle à Roland Barthes. Si vous voulez aller lui parler, allez au Collège de France le dimanche matin. Il donne son cours magistral, comme Lévi-Strauss. C'est une concierge très intello, hein. C'est vrai que le dimanche matin, Roland Barthes faisait son cours de Collège de France, où tous les gens nocturnes, les déséquilibrés, les intellectuels, les pauvres, les riches, tout le monde y allait. T'avais des mecs qui étaient au palace, vous vous rappelez cette boîte de nuit qui était mythique. On dansait toute la nuit, t'avais des mecs qui étaient là. C'était l'époque de Saturday Night, Saturday Night. Ah, Saturday Night. Il n'y avait plus de chansons vers 9h, t'avais encore des gens sur la piste. Et puis on disait, mais pourquoi vous dansez? Il n'y a plus de musique. Alors ils disaient, on attend le cours de Roland Barthes. Et là, ils allaient tous vers le cours de Roland Barthes. Et il y avait Julia Kristeva avec des lunettes effrayantes. Il y avait des gens. Il y avait 1300 personnes, on se serait cru chez Mick Jagger. Il y avait la queue jusqu'au boulevard Saint-Michel. Moi, j'arrive là-dedans. Je rentre dans le Collège de France. Je marche sur des corps étendus. Je marche des beatniks, des hippies. Je trouve une marche. Ça y est, je m'assois. Je suis au cours de Roland Barthes. La star, vous trouvez l'équivalent, c'est ça. C'est tout. Barthes.
C'est le délire, mais en même temps, c'est pas complètement fou quand on entend parler. Vous disiez, Stéphane Samoyau, que vous êtes trop jeune, et Marielle Massé également, pour avoir assisté à ces cours de Roland Barthes. Mais tous ceux qui ont assisté aux cours de Roland Barthes en sortent aujourd'hui avec des trémolos dans la voix. Comment expliquer ce côté mythologique de Roland Barthes encore aujourd'hui, donc 40 ans après ces fameux cours, ou 35-40 ans, disons? Oui.
Alors c'est vrai que là, Fabrice Lucchini, de manière vraiment très drôle, évoque plutôt la période des cours au Collège de France que Barthes lui-même considérait comme le grand cirque, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un monde fou, on se battait en effet pour entrer. Bon, ça n'était pas le dimanche matin, mais le samedi matin. Et effectivement, ça pouvait se faire, même pour Barthes lui-même, après des soirées au Palace. Barthes était très ami avec Fabrice Aimer, qui a fondé le Palace, après avoir fondé plusieurs boîtes ou bars gays du quartier Sainte-Anne à Montmartre. Donc, toutes ces interactions, elles existaient, elles faisaient partie aussi de cette époque, et voilà, donc ça le restitue très bien. En revanche, il y a aussi un Barthes enseignant qui n'est pas du tout le même, qui est le Barthes des séminaires, et c'est surtout la mémoire de ces séminaires que les gens rapportent aujourd'hui avec émotion, parce que c'était un espace d'expérimentation pédagogique incroyable, à la fois, bon, ce Barthes qui cherchait à se défaire de toute autorité sur le savoir, sur le discours, qui laissait une place considérable donc à ses étudiants, qui faisait de cet espace un lieu d'expérimentation, on va dire, à la fois pédagogique, scientifique, érotique. C'était très complexe. Donc ça, c'était des petits groupes. Très vite sélectionnés, sauf au début. Hein, il recevait des lettres, il acceptait ou non les gens au séminaire. Et c'était tout autre chose. Hein. Et donc je crois qu'il faut bien distinguer. Mais tout ce que Barthes a apporté comme transformation dans les manières de dire, d'enseigner, etc., c'est plutôt dans cet espace des séminaires qu'il a commencé à expérimenter bien avant 68 et qui a eu un grand rôle dans la façon dont mai 68 a secoué tout ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est incontestable. Hein.
Stéphane Samoyau, vous êtes notre invité aujourd'hui pour votre biographie épaisse, hein, une somme, Roland Barthes, qui sort aux éditions du Seuil. Et autour de la table pour dialoguer avec vous, Marielle Massé, qui est professeure spécialiste de littérature du XXe siècle. Marielle Massé, la parole est à vous.
Oui, je suis frappée par le fait que dans son talent, Fabrice Lucchini, en fait, il parle exactement comme Barthes souffrait qu'on puisse parler, c'est-à-dire hystériquement, très vite, très fort, et en disant un peu tout ce qui lui passe par la tête. Vous avez parlé des séminaires, ce qui était... semble-t-il soutenu dans le séminaire, c'était l'idée d'une relation mesurée, justement, d'un petit groupe, vous l'avez dit, mais aussi une relation aussi mesurée que peut l'être l'amitié ou la lecture. Et moi, j'aimerais bien vous interroger là-dessus, parce qu'il y a des mots qui reviennent dans votre biographie autour de la délicatesse, autour de la douceur. Autour de cette quête d'une parole juste, mais qui a aussi été à l'origine de beaucoup de déceptions ou de manques. On a eu le sentiment que Barthes ne s'était pas suffisamment engagé, ou qu'il s'était engagé sur un terrain où sa pensée n'était pas attaquable ou n'était pas assez contemporaine. Alors autour de cette idée d'une mesure, d'un corps toujours un peu en retrait, est-ce que vous avez...
Alors, il faut préciser qu'il était tuberculeux, qu'il a passé plusieurs années, 6 ans, dans un sanatorium dans les années 40, et qu'il ne s'est pas engagé politiquement dans les combats de son temps, alors qu'il se disait marxiste, non communiste, mais marxiste. Il n'a pas signé, par exemple, le manifeste des 121 sur l'insoumission du peuple algérien. Il est resté distant en mai 68. Il n'a pas pris position pendant la guerre d'Algérie. Et en même temps, vous dites, Stephen Samoyeau, que le 6 février 1934 a été une date importante pour sa prise de conscience politique. Voilà, juste pour brosser à grands traits cet engagement mitigé de Roland Barthes.
C'est un engagement mitigé dont je montre qu'en réalité, il est extrêmement cohérent et puissant, en fait. C'est-à-dire que, dès le départ, donc le 6 février 1934, c'est un choc. Ils fondent une revue, un groupe de gauche avec des camarades. Ensuite, au sanatorium, il lit Marx avec passion. Il devient véritablement marxiste. Ça se sent très précisément dans les mythologies, mais dans beaucoup d'autres textes des années 50, époque où il est quand même très engagé dans l'art le plus engagé de l'époque, qui est le théâtre. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc là, il n'hésite pas à prendre des positions fermes, violentes. Parce qu'il y a aussi une violence de certains de ses engagements qui se mesure aussi à la somme de haine qu'il a eue contre lui. Il y a la polémique avec Picard qui est bien connue, mais bien d'autres anecdotes qui pourraient le prouver. Et j'essaye de rectifier quand même cette image d'un Barthes non engagé, d'abord en racontant les circonstances du manifeste des 121 et le fait qu'avec d'autres intellectuels, il n'a pas voulu le signer, mais il a signé un autre manifeste contre la guerre d'Algérie. Alors c'est vrai que l'histoire retient précisément les manifestations les plus spectaculaires d'engagement, mais ce serait contradictoire avec sa volonté à lui d'avoir toujours refusé tout geste spectaculaire. Donc il le dit, il y a des correspondances très très émouvantes avec Maurice Blanchot. Par exemple, à un moment, donc, il partage avec Blanchot un anti-gaullisme absolument viscéral, qui se sent dans des lettres que je cite, mais aussi dans des articles de cette époque. Et Blanchot lui dit « C'en est trop, le régime général de Gaulle, c'est une véritable dictature. Il faudrait que nous, en tant qu'intellectuels, on signe un papier disant qu'on refuse que notre parole soit publique sous ce régime. » Et Barthes lui répond, mais comment signer le fait que signer quelque chose sur le fait que nous ne voulons pas signer ? Donc il soulève ce paradoxe, et refusant tous ces gestes spectaculaires, effectivement, son engagement paraît moins fort que celui de ses contemporains, alors que si on suit le fil, on s'aperçoit que non seulement il est très grand, mais qu'il peut nous apporter, à nous aujourd'hui, qui ne pouvons plus nous engager autour des mots de révolution ou de ces mots qui ont été les maîtres mots de cette époque, nous réapprendre des gestes peut-être plus modestes, plus obliques, plus nuancés, mais... Tout à fait engagé.
Modestie, puissance de cette délicatesse, dites-vous, pour résumer. J'ai l'impression que tout ça, ça fait plus une manière de dire qu'un dire. Et est-ce que ça, c'est pas le problème pour la postérité ?
Oui, Stephen Samoyeau.
C'est un problème. C'est vrai que par rapport à d'autres intellectuels du XXe siècle, de sa génération et même d'aujourd'hui, on ne peut pas résumer les livres de Barthes ou ses textes selon des thèses ou en fonction de positions absolument claires. Mais c'est aussi la force de cette œuvre. C'est-à-dire qu'elle peut toujours être reprise selon d'autres entrées et d'autres directions.
Marielle Massé.
Oui, pour répondre à cette même question, vous dites la chose formidablement, une manière de dire qui laisse de côté l'engagement d'un dire. Mais si ça n'est pas un spécialiste de littérature qui insiste sur le fait qu'il faut s'interroger sur le comment être, comment dire, comment ne pas se mentir à soi-même quand on asserte, comment être nuancé sans être tiède. Je pense que c'est ça que Barthes appelle vivre selon la littérature. C'est pas forcément parler de la littérature ou penser indéfiniment sur elle, mais c'est être accompagné par une sorte de scrupule de parole qui, même s'il lâche peut-être sur les thèses, sur l'assertion, sur des prises de position qu'on espérerait pouvoir faire sienne, qui ne lâche pas en revanche sur l'idée qu'il faut être attentif à comment on est, comment on dit, comment on vit, comment on se montre.
Stephen Samoyeau.
Oui, je suis tout à fait convaincue de ça. C'est-à-dire que il y a des formes d'affirmation chez Barthes, mais elles sont plus en effet sur des manières de vivre, des manières de dire. Que des thèses qui finalement se démodent ou se, sont d'autant plus fortement affirmées qu'elles sont ensuite caduques.
Tiffaine Samoyau et Marielle Massé, dans ce que vous apportez et vous avancez aujourd'hui, j'entends comme une nuance qu'on pourrait faire à Éric Marty, qui est professeur de littérature contemporaine et qui est un ami très proche de Roland Barthes, hein, qui va d'ailleurs signer un album pour cette année du centenaire, et qui dit dans un entretien au Monde des Livres qu'il regrette un peu que Barthes, qui a un côté Barthes littéraire pour les littéraires, il regrette par exemple que les philosophes ne lisent pas beaucoup Barthes, ou les sociologues ne lisent pas beaucoup Barthes. Et vous, l'une comme l'autre d'ailleurs, dites que ben Barthes, il est pour tout le monde, et qu'on peut tous, qu'on soit d'ailleurs autre chose que littéraire, sociologue et philosophe, qu'on soit citoyen, qu'on soit scientifique, qu'on soit ce qu'on veut.
Moi, je suis convaincue de ça.
Il y a un Barthes pour tout le monde, en fait. C'est ça que vous nous dites aussi.
Oui, il y a un Barthes pour tout le monde. Il était très soucieux de ça. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'inscrivait pas... mais là aussi, la biographie renseigne beaucoup là-dessus, mais qui ne s'inscrivait pas dans un milieu social déterminé, comme on a commencé en disant qu'il a brouillé la frontière entre intellectuel et écrivain, mais d'une certaine manière, c'est un peu toutes les frontières entre culture savante et culture populaire. Il s'intéressait à tous les objets qui l'entouraient de manière indifférente.
Et entre droite et gauche ?
Alors non, c'était vraiment un homme de gauche.
C'est clair et net. Pas de discussion possible. Merci beaucoup, Tiffaine Samoyau. Roland Barthes, donc c'est une mine. Il est d'ailleurs assez lourd à porter. C'est une mine, on a bien compris. Une mine d'or, Fiction et compagnie, Le Seuil, c'est dans la collection Biographie. Merci beaucoup, Marielle Massé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui vont se passer cette année. En particulier, une exposition à la bibliothèque François Mitterrand à Paris à partir du 5 mai jusqu'en juillet. Les écritures de Roland Barthes, Panorama. Et puis, une exposition aussi au Frac Aquitaine de Bordeaux qui aura lieu à partir du 22 mai et jusqu'à fin août. Et puis enfin, une rétrospective au Champollion à Paris, du 30 septembre au 13 octobre. Barthes en 50 films, Barthes et le cinéma, donc Barthes et l'art contemporain. Et puis ce sera clôturé par une nuit Roland Barthes à la Maison de la Poésie à Paris, le 12 novembre. Voilà, plein d'événements. Il y a un site source, roland-barthes.org. Merci à toutes les deux.